Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre troisième pour cette quatrième saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Madame Gao, Nan Ping Gao.
Bonjour.
Vous êtes directrice, actuellement directrice générale du château La Bastide, du domaine viticole La Bastide à Escale, à côté de Lézignan. Un domaine viticole qui a la particularité, et même la singularité, je crois aujourd'hui, d'être détenu par un groupe chinois. On va y revenir, bien entendu. Nous vous avions reçu d'ailleurs il y a un an et demi environ, et vous allez nous dire toute l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, vous nous referez le point sur la situation actuelle. Je précise, comme vous l'aviez dit déjà à l'époque, que vous êtes d'origine chinoise, ce qui vous permet d'avoir des contacts avec votre pays d'origine, mais en même temps de gérer cette dichotomie entre directrice générale d'un domaine viticole, c'est-à-dire un domaine sensiblement languedocien, si je puis dire. Vous êtes bien toujours le seul domaine détenu par des Chinois en Languedoc-Roussillon, il n'y a pas eu de changement?
Je vais dire, dans toute l'Occitanie, nous sommes uniques.
Voilà, une unicité occitane. Alors ça va nous faire un excellent sujet pour une troisième partie. Michel, tu as prévu d'abord un petit voyage, tiens, pas très loin de la Chine, en Corée du Sud, où M. Hollande s'est rendu récemment, alors... je n'en dis pas plus.
S'il te plaît.
Comme disent les jeunes aujourd'hui, vous allez halluciner. Après quoi, tu nous parleras, alors on revient plus près de chez nous, la communauté de Corbière, Salanque-Corbière, elle s'appelle.
C'est ça, oui.
À cheval sur les PO et sur l'Aude.
Oui, une construction de baroque.
Cloche merlesque qui tient bien ses promesses.
Ah oui, bien sûr, qui continue.
Dans une deuxième partie, Michel, on reviendra alors sur Narbonne, où tu nous parleras de ce que tu appelles embouteillage sur les glacières, et tu vas faire la démonstration que cet embouteillage est réel et qu'il sera probablement de pire en pire, d'après ce que tu
d'après
ta thèse. Voilà. Et puis, en même temps, on ira voir ce que tu appelles l'attractivité du parc des expositions de Narbonne.
Bien sûr.
Alors, pour commencer, François Hollande, c'est pas Tintin au Tibet, là, c'est François Hollande en Corée
Hollande
du Sud.
À Séoul. À Séoul. Alors, c'est une. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un. Ce sont des images qui m'ont particulièrement d'abord fait rire, enfin un rire jaune si je puis dire, ne m'en voulez pas madame. Figure-toi que je passais devant mon écran de télévision, c'était le journal de TF1, je ne dis pas qui le regardait, mais c'est le journal de TF1, et je suis curieux quand même, j'écoute le sommaire présenté par Gilles Boulot, et j'apprends qu'il y aura une séquence sur la nouvelle vie de François Hollande, qui précise Gilles Boulot en question, se trouve en ce moment, en fait, en Corée du Sud, où nos envoyés spéciaux, en fait, ont suivi, en fait, l'ancien président de la République.
Ah oui, François Hollande n'y est pas allé en scooter, là-bas,
Il est allé, accompagné, notamment par une belle équipe de TF1. Alors, je regarde, évidemment, la séquence en question. Et alors, je vois, Gilles Boulot, en fait, planté au milieu de son plateau, raide, comme d'habitude, mais sans trop, parce que il s'entretient physiquement, et à l'évidence, il a la forme, les cheveux coupés courts, comme à l'habitude, mais de près, comme ses costumes d'ailleurs, et le visage éclairé toujours par un petit demi-sourire ironique à fleur de regard. Et donc il annonce cette édition en exclusivité pour TF1, évidemment, et ravi de porter un coup de la concurrence en se disant « Mon Dieu, ça va faire le buzz pendant une semaine ». Il n'a pas d'ailleurs eu tort, c'est effectivement ce qui s'est passé.
Alors, le fond de l'histoire.
Le fond de l'histoire, c'était que le prétexte de l'histoire pour accompagner, que cette équipe de TF1 accompagne François Hollande en Corée du Sud, c'était sa première conférence rémunérée, est-il précisé, mais sans savoir, sans donner une précision sur le montant de la rémunération en question.
Au SMIC, probablement.
Voilà.
Oui.
Donc, c'est sa nouvelle vie, une première conférence en Corée du Sud. Il fallait bien une équipe complète de TF1 pour suivre l'événement.
Et je vois apparaître. Le sujet était d'importance mondiale.
Je vois apparaître François Hollande. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu à la télé. Petit corps dodu, comme à l'habitude, le poil quand même fraîchement teinté d'un corbeau, d'un noir corbeau un peu trop insistant.
Ça n'a pas changé.
Monté sur une petite estrade devant un parterre d'asiatiques, notamment. Hein, il y avait aussi, à l'évidence, des Européens, en tout cas des morphologies de type européenne, soyons prudents hein, dans les mots, parce que maintenant, il faut faire attention.
Qui était venu l'accompagner, peut-être.
Alors, il faisait, et nos Asiatiques faisaient effectivement une drôle de trombine. Alors, et pourquoi, si je puis dire, là aussi, qu'entends-je de la bouche, sortant de la bouche de François Hollande, deux scuds envoyés de Séoul, direction Séoul, hein, pas la Corée du Nord, hein, deux scuds envoyés de Séoul, direction en fait Paris et l'Élysée, hein, sur l'ISF, cet impôt sur les riches hein, que lui en fait, n'aurait pas touché, on pourra en dire deux mots, et deux, cette remise des contrats aidés qui, comme tout le monde le sait, sont des contrats particulièrement importants en fait, et de justice,
qui passionnent
et de
la
justice
entière,
sociale. Hein.
Et qui sont d'ailleurs sans doute responsables du réchauffement climatique.
Oui,
très probablement.
Je me disais, mais voyons voir, il est à Séoul, il fait une conférence devant un parterre d'hommes très importants, d'officiels, etc. Et juste en face, il y a un fou. Il y a un fou qui, effectivement, menace les États-Unis et l'Europe, le monde entier.
Et pas loin,
là,
en plus.
Pas loin, hein. Parce qu'il a décidé, ou il voudrait bien leur envoyer fait, quelques missiles sur la tête, mais pas là, des scuds symboliques, hein, des vraies bombes nucléaires.
Bon, non, et voilà. Puis je fais remarquer au passage, Michel, qu'il y avait jadis un grand principe dans la diplomatie française, quand on est à l'étranger, on ne parle pas de politique intérieure et surtout on n'en voit pas, comme tu dis, des scuds de cette façon-là.
Alors le reportage continue, figure-toi, bon, parce que finalement, l'équipe de TF1 ne s'est pas contentée que d'aller à Séoul. Elle a suivi aussi le président à son retour, pendant son retour, et notamment dans son bureau, dans son nouveau bureau de sa fondation.
Je croyais à Tulle.
Hein. Alors pareil, là aussi, bureau, en fait, avec quelques dossiers sous la table, en fait, hein, le commentateur, je ne sais pas si c'est Gilles Boulot d'ailleurs, précise que le téléphone sonne sans arrêt, donc visiblement on a affaire à un président débordé, en fait.
Tout,
hein.
Tout ça passionne.
Et,
fou,
et on entend effectivement qu'il parle des siens, des autres, enfin bon, un peu
de Tulle, de la Corrèze,
de Tulle, etc. Son scooter, son parti, ses dirigeants, en fait, ses nouveaux dirigeants,
en fait, etc. Ah bon, il en reste,
il n'a pas parlé d'ailleurs entre parenthèses du siège du parti fait hein, Solferino, qui grâce à François Hollande maintenant a été vendu parce que bon le parti est
n'a plus un rond.
Enfin bref, tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'on a eu droit en fait à 3 minutes hein, sur une antenne de grande audience, hein, donc une dépense d'énergie en moyens financiers, enfin en moyens humains, enfin en pellicule, tout ce qu'on voudra pour entendre ça, c'est-à-dire un blablabla qui ne sert à rien. Franchement. Regardais ça, je me suis dit, mais enfin, quand même. Quoi. Est-ce que ce n'est pas prendre les Français, de manière générale, les téléspectateurs et les Français en général, pour de fiefs imbéciles que de leur imposer ce genre de reportage qui ne sert et ne nous apprend strictement rien.
Et je rappelle, ou en tout cas j'attire l'attention sur le fait que la réponse est très probablement dans ta question. Alors rapprochons-nous un petit peu et revenons à cheval sur les Pyrénées-Orientales et sur l'Aude avec l'innommable communauté de communes Corbière-Salanque.
On change quand même de géographie.
Mais là, ça nous touche plus directement.
À un territoire à la morphologie totalement baroque, construit, c'est une intercommunalité de circonstances dont j'ai déjà à plusieurs reprises dit effectivement le caractère totalement ubuesque.
Et alors, quoi de neuf ?
Alors, je rappelle que cet été, il y a eu cette guerre des containers qui a mis en pétard le Sébastien Pla, le maire de Duyac, Père-Hubertus, 149 habitants, mais quand même président de la commission de tourisme, de la région Occitanie. Parce que pourquoi le président de la communauté, de la commune en question, son ami qui déteste, hein, et c'est réciproque, le maire de Clairat, monsieur Puig, non ?
Oui, Puig, comme ils disent chez les Catalans, ou Puig.
Hein, au motif que ce maire de Puig, qui ne peut pas, d'après Sébastien Pla, encadrer les Audois, et lui en particulier, aurait posé un conteneur juste sur le chemin qui mène au château, au fameux château. Donc, pas content du tout. Et là, figure-toi que j'apprends, mais je suis étonné que de voir que la presse ne l'a pas relevé, que le maire de Sals, qui pourtant est le voisin hein, du maire de Clairat et qui ont œuvré ensemble pendant très longtemps dans la petite commune de la Salanque, hein, avait déposé un recours devant le tribunal administratif au motif que la distribution des sièges dans la communauté par le préfet ne lui convenait pas du tout. Il considérait qu'il n'avait pas assez de conseiller communautaire. Donc il a fait un recours devant le TA et il a gagné.
Qu'est-ce que ça change ?
Évidemment, le président de la communauté qui lui veut garder le même nom, la même répartition, Monsieur Puy, son voisin, mais son concurrent aussi, va faire un recours, hein, donc recours, caractère suspensif,
oui, hein, etc. Donc ça va, ben il y a de l'ambiance quand même.
Tout ça montre quoi ? Ça montre qu'effectivement cette communauté de communes, hein, indépendamment du fait qu'elle a été construite, quand même, je vais y revenir deux secondes si tu le permets, Jean-Claude. C'est une communauté de circonstances. Rappelle-toi, je rappelle à nous, en fait, nos auditeurs,
qui a été bâti plutôt contre que pour.
Oui,
quoi.
Dans la première séquence, hein, de cette création, tout le monde était d'accord pour fusionner les Aulnois et les Catalans. Aucun des deux ne voulant se retrouver fusionné avec la métropole de Perpignan, la communauté urbaine de Perpignan, et puis Narbonne ou Carcassonne.
Et ça n'a pas duré.
Et pourquoi ? Parce que le seuil qui était fixé, c'était 20 000 habitants. Mmh. Comme les Catalans en avaient 16 000, et puis les autres, bon, encore moins, bah, ils disaient, il faut qu'on fusionne tous les deux.
Sauf que, avant de marquer la pause, terminons par ça.
Sauf qu'entre-temps, amendement au Sénat, etc., validé par l'Assemblée, et on abaisse le seuil, on le met à 15 000. Or, du coup, les Catalans, ils sont 16 000. Ils disent, on n'en veut plus.
On n'a plus besoin de ces petits Aulnois là-bas.
D'autant
qu'ils coûtent
cher, ils ont une situation financière catastrophique, d'ailleurs le préfet le dit, ils ont un personnel sur-effectif, etc. Donc il faut revenir.
Donc il faut s'attendre encore à du nouveau prochainement.
Et franchement, le mieux quand même, Jean-Claude, serait effectivement de séparer ces deux entités et qu'on n'en parle plus. Quoi.
Voilà, bon, et on reviendra peut-être un jour à un peu plus de rationalisme.
Et de sérénité, surtout dans ce genre.
Et de sérénité. Et on marque une première pause.